passe immédiatement la parole à Joël Billard, qui est professeur à l'Université de Tours. Il va nous parler de l'infini.
Oui, j'ai donné comme titre à cette communication, assez brève, je pense, « Les attributs migrent-ils, Blumenberg et l'infini ?» Car la migration supposée des attributs de point à l'infini, tel est en effet le titre d'un chapitre de l'ouvrage de Blumenberg, « La légitimité des temps modernes ». Plus précisément, le septième chapitre de la première partie, elle-même intitulée, dans la traduction française, « Sécularisation critique d'une catégorie de l'illégitimité historique ». Alors, si j'ai choisi d'en faire l'entrée de ce bref exposé, c'est parce que ce chapitre prend pour objet un auteur qui est considéré, ou une doctrine exactement, qui est considérée comme centrale, et vous l'avez déjà entrevu avec l'exposé précédent, dans la description que fait Blumenberg. Alors, bon, non seulement c'est un auteur que je connais un peu, mais cet auteur se retrouve également à la fin de l'ouvrage de Blumenberg, à côté de Nicolas de Cuse, ou en face, on ne sait pas trop, comme l'une des deux figures nous permettant, dans leur confrontation, rapprochement, de penser la limite ou le basculement entre Moyen-Âge et temps moderne, dans un chapitre intitulé quant à lui « Le monde comme auto-épuisement de Dieu ». Alors, je vais parler donc, du coup assez peu de ce qu'on appelle habituellement le Moyen-Âge, mais de ce point de vue-là, je souscris pratiquement à tout ce qui a été dit par l'orateur précédent, donc ça évitera quelques redites, et je me situerai à la toute fin du Moyen-Âge, ou de la Renaissance comme on veut, mais disons, pour Hegel, c'était la fin du Moyen-Âge, à savoir le XVIe siècle. Suivre le fil de cette migration ou de cette non-migration en réalité des attributs nous fait donc traverser l'ouvrage. Une autre raison, c'est que je partage l'idée selon laquelle Bruno joue un rôle majeur à la naissance des temps modernes, même si ce n'est pas exactement pour les raisons avancées par Blumenberg. Alors l'infini divin est-il réinvesti dans le monde ? Je reviendrai brièvement un peu plus loin sur la manière dont je comprends la position de Bruno sur les questions de l'infini et du rapport du monde à Dieu, mais dans un premier temps, il convient de rappeler ce que critique Blumenberg et sur quelle base il le fait quand il rejette l'idée de sécularisation pour expliquer le passage de la pensée médiévale au temps moderne. Le point de départ peut être résumé simplement dans une phrase parmi ce très long et très fourni ouvrage. Je cite « Le fondement de l'illusion de la sécularisation se trouve dans la structure du réinvestissement, Umbesetzung ». Alors, en vérité, un certain nombre d'analyses l'ont montré mieux que je ne saurais le faire, en particulier les travaux de Jean-Claude Monod que vous entendrez tout à l'heure. Il faut introduire des nuances. Non seulement, peut-être, entre « sécularisation » et « verweltlichung », « mondanisation », terme qui me paraît important, mais les deux sont souvent traduits identiquement dans la traduction française. Mais plus encore, à suivre Blumenberg lui-même, des nuances entre ce qui serait transposition de contenu conceptuel et reprise de questions laissées en suspens. Et dans l'idée, je dirais, de sécularisation, 19e et 20e siècle, souvent ces deux processus sont un peu mélangés, et Blumenberg d'ailleurs pense qu'il faut les séparer. C'est notamment un auteur allemand, Carl Friedrich von Weizsäcker, qui est visé par Blumenberg pour avoir soutenu que Bruno procéderait à une telle opération de sécularisation de l'infini. La migration supposée des infinis, équivalente à une sorte de recyclage de contenu dogmatique, concerne donc ici l'infini, qui est censé avoir été un attribut divin avant de devenir un attribut du monde lui-même ou autre variante de l'espace. Si pour un médiéviste, les accidents ne sauraient migrer d'un sujet à l'autre, du moins selon le cours normal de la nature, il n'en est pas moins vrai que le schème général d'un transfert de concepts ou de questions selon les cas, d'un ordre de réalité à l'autre, et notamment de la théologie à la philosophie, est un schéma fort utilisé, et à mon sens fort utile, dans l'histoire de la philosophie médiévale. Dans le chapitre 7 de la première partie, en réalité, Blumenberg abandonne rapidement Giordano Bruno, sur lequel il reviendra plus tard, pour évoquer la controverse au sujet de l'espace entre Leibniz d'un côté, Clark et Newton de l'autre. On sait que Leibniz, refusant de faire de l'espace comme du temps, des réalités absolues, au bénéfice d'une conception relationnelle de l'espace, critique la conception de l'espace comme sensorium dei, selon laquelle l'espace serait comme le lieu dans lequel Dieu perçoit toute chose par sa présence immédiate. En vérité, il s'agit plus pour Newton d'une analogie que d'une divinisation de l'espace ou du monde à proprement parler. On y trouve néanmoins l'écho ou le relais de l'idée d'une omniprésence divine au fond de l'infinité, au fondement, pardon, de l'infinité de l'espace. Or, il faut quand même rappeler que, de fait, cette idée fut à la base du transfert effectif d'une certaine forme d'infinité à l'espace et au cosmos, tant chez des théologiens que chez philosophes commentateurs d'Aristote, et cela dès le XIVe siècle. Ce schéma conceptuel évoqué par Blumenberg à propos de Nicolas de Cuse est déjà présent, sous une forme différente bien entendu, mais déjà présent chez des théologiens, tels que Jean de Ripa par exemple, où une certaine forme d'infinité, ou l'infini en un certain sens, est attribuée à l'espace cosmique, même si cet infini reste différencié de l'immensité divine. Et par-delà des différences incontestables de perspective, on sait que dans les commentaires du Traité du Ciel, par les philosophes parisiens du milieu du siècle, l'hypothèse qu'au-delà du monde naturel puisse s'étendre un espace infini est évoquée au moins de potentia dei absoluta. Ainsi, pour ne prendre qu'un exemple, Orem, dans le livre du ciel et du monde, pose un espace infini, défini comme capacité à recevoir un corps et en un certain sens coextensif à l'immensité divine. Et il écrit, je cite, « Dieu, par sa grandeur infinie sans quantité et simplement indivisible, appelée immensité, et de nécessité tout en toute extension ou espace ou lieu qui est ou qui peut être imaginé. » Même s'il n'évoque pas à ma connaissance, mais je ne connais pas tout de cette grande œuvre, ces développements fort importants, pour la théologie comme pour la philosophie médiévale, Blumenberg vise donc un schème conceptuel, un schème général d'interprétation, qui verrait dans ses spéculations sur l'infini un transfert progressif de concepts et de questions qui auraient mûri en relation avec l'infinité divine. Alors, à quoi il ajoute, en s'appuyant sur Pascal, l'infini du progrès dans l'histoire, mais cela mériterait une analyse spécifique, car cela tient une place particulière dans l'analyse de Blumenberg. Malheureusement, et par manque de temps et de compétences, je laisse de côté cet aspect, puisque, comme je reviendrai sur Bruno, ce n'est pas un problème qui se pose pour Bruno. Donc, il fallait faire des choix dans le temps qui m'est alloué. Mais je signale quand même que l'infini, pour Blumenberg, c'est autant, voire plus, l'infini du progrès dans l'histoire, peut-être que l'infini de cosmologie. Je me centrerai sur la cosmologie. Que reproche Blumenberg à ce schéma interprétatif ? Outre la volonté latente d'auto-justification des temps modernes, qui ne lui paraît pas pertinente, c'est le contenu même d'infini qui lui paraît équivoque. Et à cet égard, il avance deux éléments. Premièrement, l'infini tel qu'il serait transféré au monde est compris comme signifiant l'indétermination. Je cite, « L'infini est plus un prédicat de l'indétermination que de la dignité. » Je ne vous donne pas les pages, mais ce sont des citations prises dans la légitimité des temps modernes. Certes, cette thèse, là encore, pourrait s'appuyer sur l'infinité du progrès historique, mais sans doute, pour Blumenberg, est-elle transposable aussi à l'infinité de l'espace. Autrement dit, si je comprends bien, Blumenberg ne voit dans l'infinité mondaine ou mondanisée que le mauvais infini au sens hegelien et non l'infinité actuelle, plénitude d'être et de puissance. Pour un médiéviste, la thèse est surprenante, car elle méconnaît tous les débats médiévaux qui visent à faire accepter contre la lettre de l'aristotélisme l'idée d'infini en acte. Celui-ci, ou celle-ci plutôt, cette idée, est progressivement validée que ce soit dans les débats sur le continu, dans les séries mathématiques orémiennes, mais aussi, chez Jean Mer, pour ne prendre qu'un exemple, pour les réalités physiques. La mise en cause de l'interdit aristotélicien contre l'être en acte de l'infini permet que l'infini, chez les médiévaux, dans les derniers siècles du Moyen-Âge du moins, ne soit pas seulement l'indéterminé de la philosophie ancienne ou le mauvais infini au sens hegelien, même si celui-ci peut avoir cours dans certaines conceptions du progrès infini. Deuxièmement, Blumenberg renverse la perspective critiquée en jugeant que, je cite, « l'infini est un élément d'une métaphysique hautement séculière qui a pénétré dans la réception patristique et scolastique par l'intermédiaire de la spéculation de Plotin ». Il y a assurément une part de vérité dans ce jugement, en premier lieu en ce qui concerne le rôle du néoplatonisme dans la construction du concept théologique d'infini, en second lieu aussi sur le fait que l'infini fut un concept ayant cours dans la plus ancienne philosophie. Mais précisément, le concept d'infini a été transformé par sa théologisation. Je ne vais pas reprendre ici en détail ni quelques petits travaux que j'ai pu faire sur l'infini, ni surtout les travaux beaucoup plus développés dus à Antoine Côté, par exemple, mais on peut résumer une bonne partie de l'histoire du concept d'infini par le retournement de ce concept de négatif en positif. Car précisément le concept antique de l'infini est synonyme d'indétermination et par conséquent perçu, du moins chez Platon et Aristote, comme une imperfection. Et c'est seulement dans la pensée médiévale et notamment théologique qu'il est retourné en concept positif au terme d'un long processus. L'infinité en Dieu, malgré quelques suggestions de Damascène, caractérise d'abord l'attribut de la puissance et non l'être infini. C'est avec Henri Degant et Don Scott que l'infinité quantitative est transposée en infinité d'être et que conjointement, elle en vient à être tenue pour un attribut positif. Et c'est alors seulement que le concept est déplacé de la quantitas vers l'entitas et des mathématiques vers la théologie. Il y a là, si l'on veut trop vite résumer, une première migration qui suscite une problématique nouvelle, car se pose dès lors la question de la mise en regard ou de la comparaison de l'infinité de Dieu et de l'infinité du monde par la médiation de l'infinité de la puissance. C'est à partir de là, me semble-t-il, que prend sens la question de la mise en regard de la cause infinie et de l'effet infini, que l'on va trouver aussi bien dans les commentaires aristotéliciens, notamment Averroïste, à propos de la vigueur infinie du premier principe, que dans les textes théologiques post-scotistes, comme ceux de Jean de Ripa. C'est aux confins des XIIIe et XIVe siècles que prend sens la question soulevée par Blumenberg à propos de Bruno, de savoir si le monde épuise la puissance infinie de Dieu, avec toutes les conséquences que l'on peut deviner à propos de la théorie du possible et du nécessaire, puisque, je le rappelle, je l'ai signalé brièvement tout à l'heure, tel est le titre du chapitre 3 de la quatrième partie, Giordano Bruno, 2. Le monde comme auto-épuisement de Dieu. Qu'on me permette par conséquent quelques considérations sur Bruno, puisque Blumenberg lui assigne une place de choix dans la naissance des temps modernes. Quoique des débats existent entre les interprètes, il est plausible, et pour ma part je m'y rallie, de soutenir que Bruno développe une philosophie de l'immanence où le premier principe est tout entier déployé dans le monde. Hans Blumenberg semble accepter cette interprétation qui est par exemple celle de Miguel Granada. Mais il convient de souligner aussi que cela semble précisément être le point essentiel dans la condamnation de Bruno, ainsi que cela apparaît dans les documents du procès. Dans un document du procès de Venise, daté du 2 juin 1592, document dans lequel Bruno affirme n'avoir rien enseigné directement qui soit contre la religion catholique, mais seulement indirectement en argumentant, dit-il, selon la voie des principes naturels, sans toutefois préjuger de leur vérité selon la lumière de la foi, il met en avant la question de l'infini. Je cite juste le début. « En somme, je tiens un univers infini, c'est-à-dire un effet de l'infinie puissance divine, parce que j'estimais chose indigne de la bonté et de la puissance divine, que, pouvant produire, en plus de ce monde, un autre monde et d'autres mondes infinis, elle se contenta de produire un monde fini. » Je laisse de côté la suite qui concerne la pluralité des mondes, l'âme et le mode de présence de Dieu au monde. Retenons que la problématique de la dialectique cause-effet est la question de la dignité et de l'effet et de l'action. Bruno, d'ailleurs, n'est pas l'inventeur de ce dispositif conceptuel. On le trouve littéralement un demi-siècle plus tôt dans le Zodiacus Vitae de Palingenius en 1534. Cet auteur, moins connu certes que Bruno, fortement marqué par le renouveau du néoplatonisme dû à Marcille Ficin, estime lui aussi que la puissance infinie de Dieu doit s'exprimer dans un effet infini. Je cite « Nous devons conclure que l'ouvrage du Tout-Puissant est infini, sans quoi sa puissance et sa science seraient vaines. Car s'il a pu et su créer quelque chose de plus beau et plus grand que les cieux et qu'il ne l'ait pas voulu, sa science et sa puissance deviennent donc inutiles. » Et Descartes lui-même, bien qu'il n'admette pas explicitement, on le sait, l'infinité du monde, évoque cette possibilité en juin 47, se référant à Nicolas de Cuse. Il dit « Le cardinal de Cuse et plusieurs autres ont supposé le monde infini, sans qu'ils aient jamais été repris par l'Église à ce sujet. Au contraire, on croit que c'est honorer Dieu que de faire concevoir ses œuvres fort grands. » Alors que retenir de cela ? D'abord qu'il y eut effectivement mise en regard de l'infinité divine et de l'infinité du monde créé. Ensuite, que si le retournement de l'infini négatif en infinité positive dans le processus qui conduit de Thomas d'Aquin à Scott est bien centré sur l'infinité divine, les nouvelles données, une fois croisées avec la réflexion sur la puissance et son actualisation d'une part, le possible et le nécessaire d'autre part, conduisent effectivement à une transposition de cet attribut au monde dans sa totalité, à l'univers. Néanmoins, c'est une autre cause que Blumenberg assigne à la condamnation de Bruno, son refus des dogmes de l'incarnation et de la Trinité. Effectivement, un document de la même année évoque que Bruno aurait soutenu ouvertement des opinions hérétiques sur ces sujets et il semble qu'ils aient figuré dans la liste des 14 points mentionnés dans l'accusation finale. Il apparaît toutefois qu'au cours des débats de 1599 autour des propositions d'abjuration qui lui furent faites, Bruno était prêt à transiger sur quelques-uns de ces points. Reconnaissant des doutes sur l'union hypostatique, il affirme avoir toujours cru en la divinité du Christ, néanmoins. Et surtout, en ce qui concerne l'Esprit Saint, le principal problème résidait dans son identification à l'âme du monde. Or, cette erreur nous renvoie de rechef à la cosmologie. Par la thèse de la nécessité de la création infinie, le refus du caractère arbitraire de l'acte divin et le caractère contingent de son produit. Donc c'est bien la question de la cosmologie qui est au cœur de la condamnation de Bruno, même si le fait qu'il ait aussi parfois eu quelques attitudes provocatrices à l'égard de la Trinité a pu aggraver son cas. Blumenberg souligne à juste titre que Bruno ne reprend pas la potentia absoluta de la théologie tardo-médiévale, dès lors qu'il récuse la distinction même entre puissance absolue et puissance ordonnée. En un sens, assurément, Bruno esquisse une problématique nouvelle, tout comme il rend philosophiquement caduque l'idée de création. Je partage même l'idée que ce pas décisif se joue dans le thème de la naturalisation et la résorption des opposés dans l'immanence, débat avec Nicolas de Cuse, jusqu'à modifier le sens même de la notion d'immanence qui porte encore trop en elle le négatif de la transcendance. Pourtant, c'est autre chose que Blumenberg met en exergue pour souligner en quoi, selon lui, la pensée brunienne contribue à l'émergence des temps modernes. Qu'est-ce qu'il met en avant ? C'est d'abord le copernicianisme, deuxièmement, Et c'est surtout ce qui a été retenu dans le numéro qui a été mentionné de la revue de métaphysique et de morale consacrée à Blumenberg en 2012, numéro qui me paraît assez problématique, mais bon, peu importe, nous n'avons pas le temps de le discuter ici, une sorte d'auto-affirmation de la raison qui ferait sortir de l'âge théologique. Je reviendrai, à la fin de mon exposé, sur le dernier point qui est central, nous l'avons vu avec la communication précédente. Mais sur le premier point, Bruno et Copernic, il faut quand même nuancer ce que dit Blumenberg. On sait que durant son séjour à Oxford, Bruno a donné des leçons sur la théorie copernicienne, incontestablement. Ça a même suscité quelques critiques. On sait aussi que le souper des cendres, écrit en 84, expose de façon favorable la théorie copernicienne et l'oppose à la cosmologie aristotélicienne. Et on a, c'est le style de Bruno, quelques expressions emphatiques. Copernic représenterait une aurore pour la pensée, une inflexion de la roue du temps. Copernic est à nouveau présent dans les dialogues cosmologiques des années qui suivent. Mais on doit souligner deux points. Premièrement, Bruno modifie le centre de gravité de la théorie copernicienne. Si je puis dire, c'est peut-être pas très heureux comme formule. Peu importe. Bruno admet parfois la vérité de l'héliocentrisme. Bon. Il admet parfois la vérité de l'héliocentrisme pour notre monde. Mais s'il met en cause la centralité de la Terre, ce qui l'intéresse n'est pas essentiellement l'héliocentrisme. C'est l'élargissement à un univers infini fait de mondes multiples. C'est toujours là-dessus qu'il revient. Et de ce point de vue, d'ailleurs, il est proche de Nicolas de Cuse. Les deux auteurs, effectivement, de ce point de vue-là, sont convergents. Donc, ce n'est pas l'héliocentrisme qui l'intéresse. Deuxièmement, il est très réservé à l'égard de l'aspect mathématique de la théorie de Copernic. Pour lui, les mathématiques sont aussi inutiles que la logique. Jouer avec les mathématiques est une chose, dit-il, vérifier d'après la nature en est une autre, dans le souper des cendres. De surcroît, il défend une interprétation réaliste de Copernic contre les présentations conventionnalistes que l'on trouvait, par exemple, dans la préface d'Ozandier. Et ces présentations conventionnalistes faisaient précisément du système géocentrique une hypothèse mathématique. Donc, malgré cette lecture réaliste, il trouve encore Copernic trop mathématicien, parce qu'il conserve les épicycles et les excentriques, et parce qu'il privilégie le mouvement circulaire qui ne se trouve jamais comme tel dans la nature. On voit donc qu'il est difficile d'annexer Bruno au mouvement de mathématisation de l'univers, qui est habituellement considéré comme un élément essentiel dans la révolution de la physique moderne. Plus fondamentalement, donc ça c'était le premier point pour lequel je n'adhère pas tout à fait à la présentation qui est faite de Bruno. Plus fondamentalement, Blumenberg voit dans Bruno un moment essentiel d'affirmation de la raison autonome se libérant de toute norme théologique. Bon, et il y a quelque chose qui est vrai de ce point de vue-là, mais je vais essayer de prendre mes distances avec la formulation même. Ce sera le troisième et dernier moment de mon exposé. Dans cette caractérisation de la position brunienne se condense sans doute toute la vision qu'a Blumenberg des temps modernes. Je suis pour ma part assez convaincu par de nombreux aspects de l'analyse de Blumenberg, analyse riche, foisonnante, d'analyse de détails, etc. D'abord par le fait qu'au-delà d'un débat un peu scolaire sur continuité ou discontinuité, l'important est de repérer des seuils, des ruptures, des décrochages au sein des complexes de questions. De plus, la recherche des origines ou des précurseurs est toujours quelque chose d'un peu vain, un jeu de miroir, même quand elle se dote de l'apparence scientifique de la recherche des sources. En ce sens, rechercher une légitimité supposée des origines ou une légitimité dans des origines supposées, plus exactement, crée plus de difficultés que cela n'en résout. Il convient bien d'étudier le Moyen-Âge pour lui-même et non pas comme précurseur de la pensée moderne. Il convient bien d'autre part de ne pas réduire la pensée moderne, évidemment, à un recyclage de doctrines antérieures. Il y a des seuils et des ruptures, ça a été dit et redit, sans tenir compte de ce qui peut faire époque. Cela étant dit, cela n'interdit pas Mais cela même exige que l'on comprenne comment certaines questions sont reprises et transposées. Et j'ai essayé de le suggérer brièvement pour l'infini. On a bien la genèse et l'évolution, la transformation d'un certain nombre de problématiques autour d'opérateurs effectivement historiques, en l'occurrence l'infini. Comment des contenus changent de sens en raison des configurations nouvelles où ils sont réinvestis. Et je reprends volontiers le terme mis en cause par Blumenberg. Donc je suis assez convaincu par ce point, je le suis aussi par la thèse selon laquelle un aspect essentiel de la pensée moderne réside dans le traitement purement mondain de problèmes liés à la science et à l'histoire. Mais même si l'on accepte cette base, qui pourrait elle-même être discutée, des interrogations subsistent sur lesquelles je terminerai. En premier lieu, si la religion structure sans aucun doute la vie médiévale plus qu'elle ne structure les sociétés modernes et contemporaines, sur le plan philosophique, il faut le rappeler, beaucoup de gens ici l'accepteront sans discuter, je crois, les rapports de la philosophie et de la théologie furent constamment renégociés tout au long du Moyen-Âge selon les facultés, selon les disciplines, selon les courants doctrinaux. Et cela laisse sa place, même si ce n'est qu'une partie de la pensée médiévale, cela laissait place aussi à de nombreuses revendications d'autonomie de la raison naturelle. Le point est connu des médiévistes sur un certain nombre de questions de physique, de psychologie, etc. Je pourrais plus amplement développer, je ne crois pas que cela soit indispensable, on le sait. On ne saurait même faire purement et simplement du Moyen-Âge un âge de la transcendance, comme cela a été évoqué négativement tout à l'heure, si tant est que le premier moteur d'Aristote n'est pas à proprement parler transcendant au monde, en tout cas beaucoup moins que le dieu de Descartes, de Malebranche ou de Leibniz. En second lieu, on peut se demander si l'opposition entre l'affirmation de la raison humaine d'un côté et une vision de la science et de l'homme dépendant de la puissance et de la volonté divine de l'autre n'est pas elle-même un effet de la position de soi de la modernité, laquelle, comme le remarque Blumenberg, est la première à se comprendre comme époque et à créer par là les autres époques. Je comptais développer ce point, mais il a déjà été évoqué par mon prédécesseur. Le procédé consistant à créer les divisions du temps antérieur chez gens de la première modernité est assez clair. Chez les premiers humanistes, avec l'invention des temps nova tempestas, nouveau temps impliquant ipso facto la fiction d'un âge moyen intermédiaire, dès lors pensé au mieux comme stagnation. Sans Moyen-Âge, pas de Renaissance, disait Olivier Boulnon. Je dirais sans Renaissance, pas de Moyen-Âge non plus. Enfin, il est d'accord, évidemment. C'est totalement. Les deux sont posés en même temps. Le procédé, d'ailleurs, d'autoposition, position de soi, comme est également présent d'une autre façon chez Descartes, qui efface systématiquement les traces, je dirais, de ses recherches et de sa formation, afin de poser au mieux le caractère absolu de l'ego cogitans. Mais ce qui peut être plus que la référence à la Renaissance ou à Descartes est présent de ce point de vue-là chez Blumenberg, me semble-t-il, c'est l'érection du sujet kantien en norme permettant de qualifier rétroactivement d'hétéronome tout autre usage de la raison. Cette raison étant comprise comme raison humaine et seulement humaine. Et c'est ce que je perçois paradoxalement dans le chapitre consacré à Nicolas de Cuse, où se trouve valorisée la puissance de l'esprit humain, puissance qui passe par la liberté de l'individu. On trouve des formules comme « l'homme moderne s'annonce par le fait que la conscience de n'être que l'aventure d'un dieu lui est insupportable », page 591. Et à tel point qu'on retombe en fin de compte, dans ce chapitre, sur ce lieu commun de toutes les présentations de la Renaissance comme humanisme anthropologique, à savoir les premières pages du discours sur la dignité de l'homme de Pic de la Mirandole, image d'épinal de la Renaissance inventée par le XIXe siècle allemand et notamment par Burckhardt. Et si tout cela, comme le suggérait à son corps défendant Aurélien Robert tout à l'heure, et si tout cela n'était finalement qu'une affaire allemande. Le terme de sécularisation est présenté comme une métaphore. Or, à partir de quoi s'est opéré le déplacement ? À partir d'un sens juridique, ça a été évoqué. De l'usurpation des biens du clergé allemand afin d'indemniser les princes par Napoléon en 1803, jusqu'à Marx reprenant le terme dans la critique de la philosophie du droit de Hegel en 1843, je cite, « Mais de même que l'émancipation ne s'est pas arrêtée aux princes, de même la sécularisation des biens, die Säkularisation der Güter, ne s'arrêtera pas à la spoliation de l'Église, der Kirchenraub, que l'hypocrite Prusse en particulier a mise en œuvre. » Donc de 1803 à 1843, la sécularisation est le terme qui s'impose en Allemagne. Certes, des enquêtes l'ont montré, le terme n'est pas sans antécédent dans les Lumières françaises. On peut même ensuite le retrouver dans certains écrits républicains du 19e, mais il me semble que son usage n'est guère passé dans le langage courant. La loi de novembre 89 en France est connue sous la désignation de nationalisation des biens du clergé et pas de sécularisation. Elle commence ainsi que tous les biens ecclésiastiques sont à la disposition de la nation. On imagine mal ce terme, même métaphorisé, couvrant le même champ que celui de sécularisation. C'est peut-être pourquoi, d'ailleurs, derrière un autre concept rôde, tel un spectre, celui de laïcisation ou de laïcité. Jadis avancé par Georges de Lagarde dans la naissance de l'esprit laïque à la fin du Moyen-Âge, mais quelque peu dévalué depuis en raison du caractère daté de sa documentation et surtout dont les 5 volumes sont entièrement consacrés, ce qui n'est pas un défaut, mais une limite, je dirais, à la philosophie politique. Et s'il existe quelques travaux sur la philosophie des laïcs au Moyen-Âge, je ne sache pas que le terme ait été utilisé de façon générale et métaphorique pour caractériser les temps modernes. Je me demande donc si cet usage métaphorique de la sécularisation récusé par Blumenberg ne prend pas en grande partie son sens dans le contexte de l'idéologie allemande des années 1840, à savoir les querelles nées de la théorie hegelienne de la religion, laquelle posait une identité de contenu, et c'est bien ce que récuse Blumenberg, une identité de contenu entre philosophie et religion, identité récusée par les hegeliens de gauche au nom d'une anthropologie anti-théologique. Est-ce un hasard si parmi toutes les citations, on trouve celle de Feuerbach, je cite, « Jusqu'à présent, nos philosophes ne sont que des théologiens médiatisés par le concept abstrait. » Seulement, chez Blumenberg, cette transposition dans le monde, cette Verweltlichkeit, ne revient pas à incarner la raison dans l'histoire. Je ne crois pas que Blumenberg soit hegelien. Elle est plutôt médiatisée par une vision qui me semble très néo-kantienne, où l'affirmation de la raison est ramenée à celle de l'individu humain, confronté à une dialectique de l'autonomie et de l'hétéronomie. Pour finir, donc, je resterai sur 2 interrogations. Premièrement, si le passage au temps moderne se met en scène par la différence entre Nicolas de Cuse et Giordano Bruno, cela ne veut pas dire que l'un serait tout entier d'un côté et l'autre tout entier de l'autre. Et Blumenberg ne dit pas cela, d'ailleurs. Chacun y contribue. On peut l'accorder. Et je pense que pour Blumenberg, cela tient à la continuité entre l'un et l'autre sur quelques questions cosmologiques. Néanmoins, pour ce qui me concerne, il me semble qu'entre l'humanisme christologique de Nicolas de Cuse et le naturalisme de Bruno, qui est à sa manière, si vous me permettez l'expression, un anti-humanisme théorique, dans la mesure où il décentre l'homme et le réinscrit dans quelque chose qui le porte et l'excède, une nouvelle alternative se décide qui va se reproduire jusqu'à nos jours. Pour le dire autrement et de façon peut-être un peu trop provocatrice, le néo-kantisme n'est pas la fin de l'histoire. Deuxièmement, il est peut-être vrai que les temps modernes non seulement se posent comme époque nouvelle, mais d'une certaine manière créent le concept d'époque et de ce qui fait époque, comme le suggère Blumenberg. Dans ce cas, n'est-ce pas la représentation de soi comme autonomie de la raison humaine qui crée dans le même geste l'opposition entre système de la transcendance et système de la raison? Alors, la procédure ultime de légitimation de soi des temps modernes n'est peut-être pas tant dans cette recherche dénoncée par Blumenberg de contenus et de matériaux qui se trouvent réinvestis que dans la position de cette opposition elle-même entre deux systèmes, celui de la transcendance absolue et celui d'une raison autocentrée sur soi. L'autocentré suffira d'ailleurs.